commence notre cours sur la paracha Vayeshev. On va prendre la page 90. Donc, dans la fameuse histoire de Yosef et de ses rêves. Donc, ce qu'on nous raconte au début de la paracha, on nous raconte que Yaakov était particulièrement attaché à son fils Yosef. C'était presque une histoire d'amour. Il ne faut pas oublier que Yosef était son premier fils de Rachel, qui, elle, était sa préférée. Et que finalement, quand on lit la paracha, quand on lit cette paracha et la paracha d'avant, on a presque l'impression que c'est pas qu'Yaakov n'avait pas envie des autres enfants, mais que bon, à la base, il voulait Rachel, et donc le fils de Rachel était son chouchou. D'accord? C'est bon, très, très terre à terre, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Bon. Quoi qu'il en soit, on va essayer de développer ça, parce que c'est assez compliqué. On nous raconte que, dans le pasouk Guimel, on nous a raconté que Yaakov aimait Yosef. Pourquoi? Tout d'abord parce que, bien sûr, c'est le fils de Rachel, mais en plus parce que Yosef était celui qui était né parmi les derniers. Donc, on l'appelle Ben Zekounikounim. Bon. Et donc, en signe d'amour, il lui a fait Ketonet Passim, donc il lui a fait une belle tunique. Une belle tunique qui, d'ailleurs, va créer la jalousie de ses frères. D'accord? Va créer la jalousie de ses frères, mais c'est pas que pour ça que ses frères étaient jaloux. Ses frères étaient jaloux également parce que Yaakov transmettait le plus clair de l'enseignement de la yeshiva de Shem et Ever qu'il avait appris, il transmettait à son fils Yosef. Ça, pour eux, les frères, ils n'arrivaient pas à supporter ça. Bon. Alors Yosef, donc maintenant on va parler des rêves de Yosef. D'accord? Donc déjà pasuk dalet. Vayir ou Echav, page 90, Vayir ou Echav, ki oto ahav via mikol Echav. Donc, les frères de Yosef ont vu que Yosef était clairement, au début, on essayait de se dire non, peut-être j'ai mal vu, etc. Quand on dit qu'ils ont vu, c'est-à-dire que bon, ils ont pris conscience que c'était vraiment le cas et que Yaakov aimait Yosef plus que le reste de ses frères. Vaïsneoto, et donc du coup, Vaïsneoto, ils se sont mis à le haïr. Velo Yachlou d'Abro le Shalom, et ils n'arrivaient pas à lui parler en paix. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente. Alors, ils n'arrivaient pas à lui parler en paix. C'est-à-dire quoi lui parler en paix? Rashi, je vais lire juste une ligne dans Rashi, colonne de gauche, pasouk d'Alet, première ligne. Velo Yachlou d'Abro le Shalom, Rashi dit, Mitor Gnutam la Madnou Shifram. Quand on nous raconte leur mauvais comportement, de ça on apprend aussi une bonne mida qu'ils avaient. Pourquoi? Chez l'Odibrou, Achad Bapé Vachad Balev. Que quand on dit qu'ils n'arrivaient pas à lui parler en paix, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à lui parler en paix, on n'a qu'à dire qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, c'est tout. Ça veut dire que c'était pas des menteurs. Et que étant donné qu'ils ne s'entendaient pas avec lui, ils n'avaient pas un message dans la parole et un autre message dans le cœur. D'accord? C'est vrai qu'on te dit, ils n'arrivaient pas à lui parler en paix. C'est-à-dire que, étant donné qu'à l'intérieur, c'était pas bon, ils n'arrivaient pas.
Ils faisaient pas semblant.
Et ça, c'est une qualité. D'accord? Bah oui. Ne pas faire semblant, c'est une qualité.
Vous avez trouvé aussi une qualité là-dedans.
Oui,
il y a des vérités.
Attention, on n'a pas dit ici qu'ils l'ont insulté. Hein. On a dit qu'ils n'arrivaient pas à lui parler. Il y avait un blocage. Il y a des gens qui ont un blocage à l'intérieur, mais extérieurement, ils font comme si de rien n'était, ils te parlent. C'est de l'hypocrisie. Non. Ah, selon ce que Rachid dit, c'est au contraire, c'est un chevar. C'est une qualité. Alors. Donc, maintenant, on va parler des rêves de Yosef. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Vayachalom, Yosef, Chalom. Vayaged l'Echav. Yosef a rêvé un rêve. Vayaged l'Echav, qui a raconté à ses frères. Il a raconté ce rêve à ses frères. Vayosifu et Tsenoto, et suite à ça, ses frères se sont mis à le haïr davantage. Alors, quel était ce rêve? Donc, Vayomer Alem, il leur a dit. Bon, je vais vous dire à l'oral le rêve. Hein. Le rêve, on le connaît. Qu'est-ce que Yosef a vu dans le premier rêve? Il a dit, je me vois, nous étions tous en train de couper des gerbes dans le champ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai vu que ma gerbe, comme Aloumative Ganitsava, ma gerbe s'est levée, d'accord, donc elle s'était levée, et, donc ça veut dire comme ça, de manière générale, les gerbes, il n'y a aucune qui est levée, elles sont plutôt penchées. Il dit, qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve? J'ai vu ma gerbe, on était toutes représentées par des gerbes, ma gerbe se levait tout droit, et vos gerbes se sont carrément accroupies à moi. Elles se sont, donc, Vatishtachavena Aloumati, elles se sont prosternées. Oui, elles sont prosternées. C'est-à-dire que moi, je me suis levé, et vous, vous êtes baissé. Alors, je vais raconter d'abord l'histoire telle qu'elle est racontée dans le texte. Après, on va essayer de la développer. Donc, ses frères, ils lui ont dit tout de suite, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que... Ah, parce que se prosterner, c'est un signe. Tu crois que tu vas régner sur nous, etc. Alors, ils se sont mis à le haïr encore plus, Al-Khalomota Valdevarav, à cause de ses rêves et de ses paroles. Ils se la jouaient, quoi. Pour eux, c'est quelqu'un qui se la jouait. Ah, surtout que Rashi raconte au début de la paracha que Yosef était beau gosse, etc. Enfin, c'était le beau gosse de la famille, quoi. Il se la joue, ils ont dit ça. Et pour qui il se prend, ça y est, il se prend le patron déjà.
Il avait une robe couleur Ferrari.
Oui, robe couleur Ferrari, exactement. Alors, il a fait un deuxième rêve. Quelques temps plus tard, il a fait un deuxième rêve. Il le raconte à ses frères. C'est quoi le deuxième rêve? Il a dit, j'ai rêvé, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Ah, là, c'était clair, là, c'était dans les gerbes. Il n'avait pas dit 11 gerbes. Là, il dit, j'ai vu le soleil, la lune, et le soleil, la lune et 11 étoiles. Pour dire, je parle de vous, quoi, c'est clair, je parle de vous. Qui était en train de se prosterner à moi. Alors là, ils ont craqué, ils sont partis le raconter à leur père. Ils ont dit, attends, c'est quoi qui sort?
Donc, même Benjamin, hein.
Bah oui. Ils sont partis le raconter d'abord El Aviv, d'accord, Ve'elechav. Donc ils sont partis le raconter à son père et à ses frères. Ils se sont dit, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est fou ou quoi? Il est devenu fou. Quel âge il a à ce moment-là, Youssef? 17 ans. Et là, son père reprend les choses en main et il lui crie, il va gronder carrément Youssef, il va lui dire, c'est quoi ce rêve que tu as fait? Est-ce que tu crois que nous allons venir avec moi et ta mère, etc., pour se prosterner à toi? C'est impossible, etc. Donc son père s'est mis à le gronder. Alors, a priori, du sens simple, on comprend que quand il le gronde, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait.
Ouais, mais il a mis le dossier sur le bureau, hein.
Oui. Alors,
après,
attendez.
C'est marqué.
Non. Pour lui, Rachid explique que pour lui, le rêve n'était pas possible. Pourquoi? Puisque dans le rêve, on voyait que sa mère allait se prosterner. Alors, qu'on a déjà appris la mort de Rachel. Donc il dit, c'est pas possible, ta mère va pas se prosterner. Sauf qu'il n'a pas compris ce que Rachid dit. Mais quand il parlait de la mère ici, il parlait pas de la mère, mais il parlait de la mère qu'il a éduquée, qui était Bilha, puisque sa mère Rachel est décédée très jeune, quand il savait d'être très jeune. D'accord. Donc ça c'est le pshat. Et après on nous dit, donc ses frères ont continué à être jaloux, Ve'aviv Shamar et Tadavar, et Yaakov, il a gardé la chose intérieurement, ça veut dire il s'est dit, j'attends, je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'il sentait quelque chose qui allait arriver. Et c'est quand des fois il y a quelque chose qui se passe, vous avez calmé l'affaire, mais vous la gardez au chaud parce que vous dites, je ne sais pas comment ça va tourner. Et bah oui, il est inquiet. Bon. Tout de suite après, il y a l'histoire de les frères de Youssef qui vont le vendre. Enfin, qui voulaient le tuer et qui vont le vendre. Bon, bien sûr qu'il y a un rapport entre les deux histoires. C'est évident. Hein. Le Torah ne dit pas explicitement, mais c'est évident qu'il y a un rapport. C'est évident que c'est suite. Ah oui.
Peut-être je vais vous dire plus que ça.
Très bien. C'est une bonne question. C'est une bonne question.
Bien sûr. On ne suis pas intelligent comme ça.
Alors, très bien. Très très bien.
Moi, j'ai fait un rêve cette nuit, je ne vais pas vous raconter.
Alors. Très bien. Bonne question. C'est justement sur ce point-là que je veux m'arrêter. C'est une question qui est posée par les Mefarchim qui disent, attends, Youssef, à cette époque-là, il a 17 ans, d'accord, c'est pas un imbécile. Même aujourd'hui, quelqu'un à 17 ans, c'est pas un imbécile, il a plus fort raison à l'époque, surtout si on nous dit que Youssef, c'est lui à qui Yaakov enseignait la majorité de la Chorma de Shem et Ever. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un d'imbécile, c'est pas un imbécile. D'accord? On l'a appris dans le pasouk Guimel. Qu'est-ce qu'il nous dit Rachid? Rachid nous dit que tout ce que Yaakov a appris de Shem et Ever, il l'a transmis à Youssef. C'était la raison principale de la jalousie de ses frères. Donc la question qu'on se pose, c'est, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Youssef? Lorsque Youssef est en train de transmettre, raconter ses rêves à ses frères. Il est pas bête. C'est très bien que ses frères vont le haïr. C'est très bien que ses frères n'arrivent pas à le supporter. Parce que, avant même l'histoire des rêves, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour ça que j'ai lu les versets. Avant même l'histoire des rêves, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ses frères avaient du mal à s'entendre avec lui. Mmh. Ils savaient qu'il y avait un problème. D'accord? Encore une fois. On aurait pu répondre et dire que non, c'est suite aux rêves qu'ils s'entendent plus. Non, c'est pas ça ce qu'on a dit. Vous avez su ce que j'ai dit. D'accord? Non, mais c'est pour ça que j'ai repris la structure. Attends, très bien. Oui, mais attendez. On a suivi ici la structure. On a dit que Youssef, ses frères le haïssaient avant même que l'histoire des rêves. Pourquoi il raconte ses rêves? D'accord? Alors vous dites peut-être qu'il était arrogant. Alors justement, on va en parler. Il y a plusieurs Mefarchim qui répondent à cette question.
Il va les forcer.
On va essayer de faire d'abord un tour de table des. On va faire un tour de table des raisons principales qui sont amenées par les Mefarchim. On a d'abord la raison du Roche. Le Roche est Rabbeinu Asher. D'accord? Le Roche est Rabbeinu Asher. Qui est un des plus grands décisionnaires qu'on ait connu, qui est même à la base du Shulchan Aruch. D'accord? C'est pas lui qui écrit Shulchan Aruch, mais c'est une des bases du Shulchan Aruch. Lui dit la chose suivante. Il ramène la Gemara, dans le traité Sanhedrin, qui dit que, à Kovesh Nevoato, Chayav Mitabi de Shamaim. Qu'un prophète qui garde sa prophétie, d'ailleurs on en a parlé dimanche matin, c'est intéressant. Un prophète qui garde sa prophétie, pour soi, il est mis à mort par le ciel. Pas par les hommes, parce que personne ne peut savoir, mais il sera mis à mort par le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas le droit de garder pour soi une prophétie qu'on lui montre du ciel. Donc le Roche, il nous donne une réponse très intéressante et très très classique. D'accord? Il dit, pour Youssef, au travers de ce rêve, il y avait un message, c'était une prophétie. Donc même s'il n'avait pas envie de le faire, il était obligé de le faire. Parce que c'est un message, il dit, écoute, je suis obligé de le faire, je suis obligé de le raconter.
Si on considère que le rêve était prophétique.
Voilà, ils ont été conscients de sa prophétie.
Bien sûr. Oui. Et je vais te dire plus que ça, à mon avis, les frères aussi étaient conscients. Bien sûr. Sinon, on n'est pas jaloux pour un rêve.
Pour rien, ouais.
Pourquoi t'es jaloux pour un rêve? Ah, c'est un fou, ma boule. Ouais. C'est censé qu'il y ait... Bon. Ça, c'est la réponse du Roche.
Tu peux toujours rêver.
D'accord. Tu peux toujours rêver. C'est une réponse, ça, c'est la réponse du Roche. Il dit que... C'est la réponse du Roche qui dit quoi? Qui dit que Yosef ne voulait pas le raconter, mais il était obligé. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce qu'il n'avait pas le droit de garder sa prophétie pour soi. Le Avarbanel qui a toujours une réponse aussi très originale, il donne la réponse suivante, il dit, l'habitude des hommes, en tout cas à l'époque des Avarbanel, c'est que lorsque les gens font un rêve intéressant, lorsqu'ils sont amis, ils se le racontent.
À l'époque.
Très bien, très bien. Donc selon la Avarbanel, donc il n'est pas d'accord avec Rachid, selon la Avarbanel, Yosef s'entendait avec ses frères. C'est seulement suite au rêve qu'ils ne s'entendaient pas. Mais encore une fois, comme je vous ai montré dans Rashi, Rashi n'accepte pas ça. Parce que je vous ai bien montré dans Rashi, Rashi a dit qu'avant même l'histoire des rêves, hein, il n'arrivait pas à lui parler, et c'est pas seulement dans le cœur, c'était même à l'extérieur. On a dit. Bon, donc Rashi n'est pas d'accord avec ça. Le Sforno, il a une autre réponse, il dit qu'en vérité, Yosef n'aurait pas dû raconter ce rêve, mais c'est parce qu'il était jeune, et quand on est jeune, on fait des bêtises. Voilà,
c'est très simple. À 17 ans,
il dit, mais ils ont tué
toute une ville, les deux autres, là,
moi je fais le tour, pour l'instant...
C'est vrai que 17 ans, on est un peu...
D'abord, je fais le tour, et après, on va se focaliser sur une réponse. Donc, il dit 17 ans, il dit, mais p'tit Naruto, il dit, c'était un jeune homme, d'accord, il a fait une bêtise, il n'a pas réfléchi, l'Ochachav, il n'a pas réfléchi aux conséquences de ce qu'il allait faire. Un grand classique.
Il a été naïf,
d'accord. Le Radak, d'accord, Rabbi David Kimri, qui a aussi toujours des réponses très intéressantes. Il lui dit non, il dit au contraire. Pourquoi je fais un tour de mes parchemins? Parce qu'on voit comment chacun il a une réponse complètement différente. Il dit, Yosef savait très bien que ses frères n'allaient pas le supporter, mais il a fait exprès pour les embêter. Comme ils étaient jaloux, d'accord, et qu'il le haïssait, il a dit, bah tiens, tu sais quoi, je vais la raconter.
Je vais vous donner une raison de la vie.
D'accord?
Voilà. Ça s'appelle.
C'est pas une...
Ça c'est la réponse du Radak. Et on a la réponse du Chizkuni.
C'est étonnant.
D'accord. Bon, d'abord je fais le tour, après on s'arrête. On a la réponse du Chizkuni, j'ai encore 2-3 réponses comme ça. La réponse du Chizkuni, qui dit que Yosef a raconté le rêve à ses frères, pourquoi? Ça c'est une réponse qui est très intéressante aussi. Pourquoi? Il dit comme ça, je sais que mes frères sont jaloux de moi, mais j'ai envie de leur montrer que c'est pas de ma faute, c'est du ciel qu'on a décidé comme ça. Ah oui, voilà.
Ça rejoint la première réponse.
D'accord.
C'est un peu plus...
Ça rejoint un peu la première réponse, d'accord? Sauf que dans la première réponse, c'est que Yosef n'avait pas le droit de garder sa prophétie. Là, c'est une réponse qui est un peu différente, c'est que Yosef a voulu le faire, il s'est dit, j'ai envie de leur montrer que c'est pas moi, c'est du ciel.
Du style,
je suis un gagnant, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute du ciel.
Je suis prophète et futur roi.
Bon, quelque part, c'est encore pire. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu dis, écoute, tu sais, je suis plus fort que toi, mais c'est pas de ma faute, c'est du ciel, on a décidé, c'est-à-dire tu le narres, quoi, pratiquement. Alors, ça, c'est encore une autre réponse du Chizkuni. Il y a encore une autre réponse du Sifté Cohen sur la Torah. D'accord, et vous allez voir qu'en vérité, toutes les réponses sont un peu différentes, mais en vérité, elles se rejoignent. Il dit, c'est écrit dans la Gemara, qu'un rêve qui n'est pas raconté est comme une lettre qui n'est pas ouverte.
Qui n'est pas postée.
D'accord ? Qui n'est pas lue. Ça, c'est écrit. Comme ça dit la Gemara Brachot. D'accord ? La Gemara dit qu'un rêve qui n'est pas raconté, c'est comme une lettre qui n'est pas décryptée. C'est comme une lettre que tu n'as jamais ouverte. D'accord ? Et donc, Yosef, c'est pour ça que Yosef, on voit ici, qu'il a dit à ses frères, on le voit bien dans le verset, il leur dit, Shimuna Chalamaza Shachalamti, je vous en prie, écoutez ce rêve. Pourquoi il leur dit, je vous en prie, écoutez ce rêve? Et je veux dire, il est en train de les écraser, là. Pourquoi il dit, je vous en prie, écoutez? Parce qu'il dit, écoutez bien, je vais vous écraser. C'est très simple. Il dit, parce que Yosef, d'accord, il sait très bien que ce rêve, le rêve qu'il vient de faire, s'il ne va pas l'expliquer à ses frères, ce rêve ne vaut rien. C'est comme si il n'a rien rêvé. Donc il a envie que ce rêve s'accomplisse. Donc il va utiliser ses frères contre eux.
Tout complémentaire en vérité.
Pour lui plutôt.
Il s'oppose pas. Hein.
Attendez.
Il se complète.
D'accord.
C'est comment
ça? C'est la réponse du Sifté. Enfin, je finis avec la réponse du Orachaim. L'Orachaim Akadosh qui est toujours aussi des réponses très intéressantes. Après, je fais un résumé des réponses. Et bon, après, on va s'arrêter sur une réponse. L'Orachaim Akadosh, il dit, Yosef a voulu essayer de faire allusion à ses frères. Il leur a dit, écoutez, c'est pas rentable pour vous. Ça vous vaut pas le coup pour vous de me haïr parce que viendra un jour où vous aurez besoin de moi. Donc, c'est une allusion qu'il est en train de leur faire. Restez tranquille, d'accord? Non, c'est pas ce prophétie, c'est qu'il est en train d'essayer de leur faire comprendre. Restez tranquille, d'accord? Calmez-vous, parce qu'un jour vous aurez besoin de moi.
Bon, c'est pas une menace.
Donc c'est pas une menace, mais c'est presque.
Ouais, ça.
D'accord? Donc, si je fais un tour des réponses qu'on a eues, c'est quoi la réponse qu'on a eue? Première réponse qu'on a dit, pourquoi Yosef a raconté le rêve? Parce que pour lui c'est une prophétie, il n'a pas le droit de regarder sa prophétie. Deuxième réponse qu'on a dit, c'est que Yosef était encore ami avec eux, donc il voulait leur raconter pour, comme les gens se racontent leur rêve, pour partager. La réponse du Sforno, c'était tout simplement une bêtise qu'on fait quand on est jeune. La réponse du Radak, c'est qu'au contraire, Yosef, pourquoi il a raconté les rêves, c'est pour embêter ses frères. Il a dit, vous m'énervez. Moi aussi, je vous énerve. La réponse du Chizkouni, c'est que Yosef, pourquoi il a raconté ses rêves, on a dit, c'est pour montrer à ses frères, sachez que si je suis comme ça, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Dieu. Bon, ça se rejoint un peu. La réponse du Sifté Cohen, c'est qu'au contraire, Yosef, il a raconté le rêve à ses frères, parce que s'il raconte pas le rêve,
ça ne marche pas.
Donc il a voulu que ce rêve prenne forme. C'est énorme, ça. Il utilise ses frères contre eux.
Bon.
C'est le plus logique, à mon avis, le plus sadique, hein, excusez-moi.
Ouais, le plus logique, ouais. C'était pas.
Le plus machiavélique.
Oui.
Il veut qu'un rêve
c'est vrai que dans le cas, dans les versets, c'est le plus logique. Parce que dans les versets, il dit Shimuna. Il dit, je vous en prie, écoutez ce rêve. Pourquoi il dit, je vous en prie?
Oui.
Et enfin, on a eu la réponse du Rachaïm Akadosh, qui rejoint aussi cette réponse-là, qui dit que Yosef est en train d'essayer de calmer ses frères pour leur dire, écoutez, ne m'embêtez pas trop, un jour vous aurez besoin de moi, et je vous donne, en d'autres termes, il est en train de leur donner la perche pour redescendre. Écoutez, redescendez, un jour vous aurez besoin de moi.
Le Barvanel, bon. Il disait pas quelque chose?
Alors. Sauf que, ça c'est des réponses très intéressantes, mais a priori on voit que Rashi n'accepte pas toutes ces réponses. Pourquoi? Parce que, selon Rashi, on voit que et Yosef savait très bien avec qui il avait affaire avec ses frères et que ses frères ne l'aimaient pas, et Yaakov, d'accord, on l'a dit tout à l'heure, et Yaakov va vivre Shamar et Tadavar, Yaakov a mis de côté l'histoire parce que Yaakov sentait que ça allait mal tourner. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on comprend d'ici? On comprend d'ici que Yosef était parfaitement conscient, et certainement que son père l'a prévenu, que c'est dangereux. Parce que c'est ce que Rashi a dit. Rashi a dit que suite à l'histoire des rêves, qu'est-ce que Yaakov a fait? D'accord? Yaakov a gardé l'histoire dans son cœur, c'est-à-dire il savait que ça allait mal se passer. Alors le Rabbi pose la question suivante, il dit, c'est évident que Yosef, qui est pas bête, sait très bien que lorsqu'il va raconter le rêve à ses frères, ça va attiser leur haine. Alors même si on a trouvé des réponses intéressantes, dire que bon, peut-être qu'il espérait les calmer pour plus tard, oui, c'est des réponses intéressantes. Mais, je veux dire, ça c'est des réponses intéressantes, quand on parle à moyen ou plutôt long terme. Mais à court terme, Yosef devait savoir, s'il n'est pas bête, il devait savoir, qu'on n'embête pas, on va pas narguer quelqu'un qui est ennemi. Surtout quand on est minoritaire. Il est seul. Seul contre tous ses frères. Alors comment ça se fait que Yosef ici, il nargue ses frères? Vous allez me dire, bon, il a envie de les narguer. On a du mal à accepter ça. Je veux dire, oublions le fait que Yosef est un sadique. Je parle dans le pchat, dans le sens simple. Comment comprendre? Qu'est-ce qu'il fait Yosef ici? Il cherche des noises. Vous avez vu? C'est pour ça que j'aime toutes ces réponses. Parce que dans toutes ces réponses, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Qui cherche le problème? Il est fou.
Il faut que l'histoire d'accord se réalise.
Alors, mais pourquoi? D'accord. Si l'histoire se réalise, c'est une chose. D'abord, la réponse, on va dire celle qui nous a marqué le plus, d'accord, c'est la réponse du Sifté Cohen qui a dit qu'il a raconté ce rêve. Pourquoi? Pour ouvrir cette lettre. Mais sauf qu'il n'est pas obligé de raconter ce rêve à ses frères.
À son père, il peut le faire.
Il peut le faire à son père, il peut le raconter à un étranger. Il prend quelqu'un dans la rue, il dit, monsieur, vous avez 5 minutes, tenez, je vous paye, écoutez-moi, je vais vous raconter un rêve.
Parce que dans le rêve, les frères ont un rôle, ils sont 11.
D'accord?
Dans le rêve,
oui.
Les frères ont un rôle.
D'accord. Mais pourquoi il le raconte? D'accord. Mais pourquoi il le raconte? Pourquoi il les embête?
C'est pas dans le scénario.
C'est pas normal. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Yosef ne doit pas croire à son rêve. Bien sûr que Yosef doit croire à son rêve, c'est évident. Parce que c'est presque une prophétie, comme on l'a expliqué. C'est pas ça la question que je pose.
Il leur a donné leur rôle.
La question que je pose, c'est pourquoi Yosef doit le raconter? Il a qu'à dire, écoute, moi c'est pas mes affaires. Si Dieu il veut leur passer un message, il a qu'à leur passer à eux, il a qu'à dire à Dieu, écoute, on va leur le message à eux aussi. Pourquoi tu le fais à passer à moi? D'accord? Oui, mais là, il y a un cadre hostile, là. Parce que là, il sait qu'ils sont jaloux de lui, et il sait pertinemment, d'accord, que ça va attiser leur haine. Et c'est ce qui s'est passé. Il voulait le tuer pour ça. Il voulait le tuer. Faut pas oublier, il voulait le tuer après.
Ben oui.
Yosef n'a pas réfléchi à tout ça. D'accord? Comment c'est possible? Alors, qu'est-ce qu'il fait ici?
Qu'ils aillent tuer pour ça, franchement.
Peut-être qu'il a pas pensé qu'on allait le tuer, mais en tout cas, on n'embête pas quelqu'un, on n'embête pas un ennemi, il est en train de les narguer, là. Pourquoi il fait ça? D'accord? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il a dans la tête?
La Corée du Nord, elle vient bien d'envoyer.
Pas seulement ça, attendez! Pas seulement ça! Alors, il pose une autre question. Il dit, Yosef a fait deux rêves. Il a raconté un premier rêve.
Il a vu
la réaction de ses frères. D'accord? Il fait un deuxième, il raconte! Pour qui? D'accord? Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue?
Il était thune.
Dis-moi.
Hein?
Trick, c'est lourd.
Trick, c'est lourd, c'est ça? Bah oui. Et ça là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la lourdeur aussi?
Non. Bon, alors. Après, il avait besoin de deux
rêves. Très bien. Bonne question. Il pose une autre question aussi, Lionel. Il dit, mais pourquoi il a besoin de deux rêves? Le priori, c'est le même message.
Pour confirmer.
D'accord? Pourquoi?
Mais pourquoi?
Il faut deux rêves pour confirmer. Il l'a dit à Pharaon.
Excusez-moi, j'arrive pas à entendre. Oui?
Un rêve comme ça peut être bien.
quand il se renouvelle, trois prochaines fois, pour sûr, il n'y a pas de direct, il se répète.
Oui, alors.
Même quand toi, tu
fais un peu de choses.
D'accord. On voit ma question dans ce cas-là. C'est pourquoi on a dû attendre le deuxième rêve pour ça. Et d'ailleurs, Jacob, on n'a pas sa réaction de son premier rêve. Dis rien à Jacob son premier rêve. Donc je reviens à notre question.
Vous n'êtes pas que des gerbes de blé, vous êtes également des étoiles.
Alors, non, donc on va essayer de trouver un message dans ses rêves. Justement,
on sait que Seth, il dit que quand il y a un rêve, c'est confirmé, parce qu'il va le dire à Pharaon.
Donc, je rappelle mes questions, messieurs. Je rappelle les questions qu'on est en train de poser ici. Première question qu'on a posée ici, c'est pourquoi Yosef raconte le rêve à ses frères. Quand il ne devait pas le raconter du tout. Bon. Et même si on va dire que il a décidé pour X ou Y raison de le raconter. Bon. Il sait très bien ce qui va se passer, il sait très bien que ses frères ne l'aiment pas. Pourquoi il raconte une deuxième fois, quoi il joue ?
Non, moi j'ai une réponse.
D'accord, et pas seulement ça, comme il dit Lionel, seconde. Comme il dit Lionel, a priori c'est une répétition, c'est les deux rêves, c'est à peu près le même message. D'accord ? Bon. Alors on va essayer de donner une réponse je trouve qui est très intéressante, une réponse du Rabbi, et qui va nous permettre de bien comprendre cette histoire de rêve, d'abord qu'est-ce que voulait symboliser chaque rêve, et pourquoi Yosef a tenu à les raconter. Une réponse très intéressante. Yosef, d'accord, la réponse est la suivante. Yosef a vu clairement que ses frères étaient jaloux pour deux choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils étaient jaloux, premièrement parce qu'ils ont vu qu'il était le chouchou de son père. La preuve, c'est que son père lui a fait une tunique. Vous savez, la tunique, c'est l'élément que chaque fois il voit Yosef, même s'il veut l'oublier, il y a la tunique, elle est là qui gagne. D'accord ? Il te rappelle, il te dit, tu vois, papa, il a fait pour lui et pas pour nous.
Exactement. Il avait une tunique. Et lui, elle était.
Ah bah oui, c'était la soie, c'était.
D'accord. D'ailleurs,
c'est-à-dire chaque fois qu'il le voit, il dit, d'accord. Bon.
Tu rentres à la maison avec un jouet et rien pour les autres.
Ils avaient un petit jouet
pour tous et un très grand jouet pour un.
C'est pour ça qu'on
tous les jours, et l'autre, il leur montre tous les jours.
Ils ont tous des Twingo et du Rainroll.
Ça, c'est la première chose, on a dit, pour laquelle...
Non, la différence est plus...
Alors, attendez, monsieur, on va finir. Laissez-moi quelques minutes pour expliquer. Faut pas qu'on s'arrête pendant quelques minutes. Alors. Donc, il le haïsse pour deux... Enfin, il le haïsse, son jaloux de lui, pour deux choses. Premièrement, on a dit parce que... Et c'est le chouchou de son père, c'est le favori de son père. Deuxièmement, on a dit parce que son père lui enseigne la majorité de la Torah qu'il a appris, c'est à lui qu'il est en train d'enseigner, à Yosef. Très bien. Yosef va faire tout son possible pour essayer de calmer la colère de ses frères. Écoutez bien. Bon. Donc il réfléchit, il dit comment je vais calmer la colère de mes frères ? Comment je vais essayer de calmer cette jalousie ? Il dit, si je vais leur dire que je ne suis pas bon, c'est faux. Parce que je suis clairement plus haut qu'eux. D'accord ? Ça veut pas dire que c'est de l'arrogance. Ça veut dire que pour Yosef, le fait de leur dire « Non, mais ne me regardez pas, je suis naze, etc. » Pour lui, c'est de la fausse humilité. La fausse humilité, ça, on ne sait pas ce que c'est chez nous. Ça n'existe pas.
De toute façon, il a la classe.
D'accord ? Bon. Alors, donc Yosef, il réfléchit. D'accord ?
Bien vu.
Yosef, il réfléchit, il se dit « Attends, bon, c'est clair que je suis une ligue au-dessus, mes frères. Ça, c'est clair. » Depuis qu'il est enfant, il le voit. D'accord ? Et même son père l'a vu. Et ses frères l'ont vu aussi, c'est pour ça qu'ils sont jaloux. Donc il se dit « Je vais essayer de les calmer. » Donc il dit, comment je vais les calmer ? Leur dire que je suis moins bon qu'eux, je peux pas leur dire. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer de focaliser le fait que je suis mieux qu'eux, je vais essayer de le focaliser sur un des points de la vie. Je vais dire, vous savez, je suis mieux que vous, mais que sur ça. D'accord ? C'est comme ça, quand on va essayer de calmer quelqu'un, on va dire, écoute, tu sais, tu as raison, mais t'as trop généralisé, il faut pas stigmatiser. Écoute, c'est vrai, je suis mieux que toi, mais que sur ça. Sur le reste, t'as certainement des choses à amener. Donc Yosef a fait un premier rêve. Qu'est-ce qu'il voit dans ce premier rêve ? Il dit, dans ce premier rêve, j'ai une occasion de calmer mes frères. Écoutez bien. Comment ? Il se dit la chose suivante. Il se dit, regarde, jusqu'à présent, Yaakov, mon père, a fait un rêve. Dans le rêve, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu des anges qui l'accompagnaient. Est-ce que le rêve s'est accompli physiquement, exactement tel qu'il était dans le rêve ? Oui, c'était pas une image. Il a rêvé des anges et il y avait des anges qui l'ont accompagné. Très bien. Abraham, mon grand-père. D'accord ? Abraham, mon grand-père. Il avait rêvé, de quoi il a rêvé ? Il a rêvé que ses descendants, c'est un rêve qu'il a eu aussi, il a rêvé que ses descendants allaient être en exil 400 ans plus tard. Est-ce que le rêve s'est accompli physiquement ? Oui, le rêve va s'accomplir physiquement. Yaakov, dans son rêve, avait rêvé aussi que son père, il avait rêvé que son bétail allait s'agrandir. Est-ce que c'était une image ? Non, c'était pas une image, ça s'est passé physiquement. C'est-à-dire que les rêves qui sont passés jusqu'à présent dans la famille sont des rêves qui se sont passés exactement tels qu'ils étaient dans le rêve. C'était pas une image. On a rêvé du bétail, parce que c'était du bétail. On a rêvé des anges, il y a eu des anges qui sont venus. Donc il se dit, avec ça maintenant, j'ai une possibilité de calmer mes frères. Comment je vais calmer mes frères ? Il leur a dit, c'est très simple. Il leur a dit, écoutez, Vous savez, bon, vous voyez clairement que je suis une ligue au-dessus. Bon, il va pas leur dire clairement. Mais, ça, je veux que vous compreniez. Qu'est-ce que j'ai vu dans le premier rêve? J'ai vu des gerbes de blé. D'accord? Je vous ai montré que vos gerbes de blé vont se prosterner à ma gerbe. Il dit, je vais vous expliquer la chose suivante. C'est quoi les gerbes? D'accord? Les gerbes, ça représente l'agriculture. C'est-à-dire, écoutez, bien sûr qu'on voit clairement, Akadosh Baruch Hu nous montre clairement que je suis au-dessus de vous. Mais moi, je pense, avec ce rêve, j'ai compris que ce sera uniquement sur le plan de l'agriculture.
En bas.
D'accord. Sur le plan de l'agriculture, sur le plan matériel, sur le plan du travail. C'est-à-dire que bon, vous allez gagner votre vie un peu normalement et moi, je vais exploser. Bon. D'accord. Mais ne croyez pas que ce sera dans tous les éléments de la vie. En d'autres termes, vous aurez vos qualités. Vous serez peut-être des plus grands sadiques. Il essaye de les calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, il va pas les calmer en mentant, il va les calmer en essayant de réduire ses qualités. En essayant de dire, j'ai des qualités, mais que sur ça. D'accord. Sauf que, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand on a la haine de quelqu'un, donc Youssef voulait bien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Youssef voulait bien faire, lui il s'est dit, je vais essayer de les calmer, parce que c'est un fait accompli que Youssef, depuis qu'il est gosse, il dépasse ses frères. C'est quelque chose que tout le monde sait. Lui il le sait, ses frères il le sait, son père il le sait, tout le monde le sait. Donc il va pas mentir, il va pas leur dire, écoutez, je me suis trompé, je suis pas mieux que vous. Non. Il va leur dire, écoutez, je suis mieux que vous, mais que sur ça. Ça va, ne soyez pas tellement jaloux, c'est pas grave. Moi je veux gagner plus d'argent que vous, mais vous aurez d'autres qualités. Allez chercher autre chose, c'est pas votre point fort. C'est ce qu'il a envie de leur dire. Sauf que le problème qu'on a, c'est quoi? Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que quand on a la haine de quelqu'un, quand on a la haine de quelqu'un du présent, et qu'on nous raconte quelque chose tout de suite, on va chercher, on va prendre ce qu'on nous a raconté, et on va le tirer le plus mal possible. C'est ce qui s'est passé. Ses frères, ils n'ont pas pensé que quand Youssef leur a dit, qu'il leur a raconté ce rêve, ils ont dit, bon, peut-être ça veut dire qu'il sera plus fort que nous uniquement sur le plan de la Parnassa, sur le plan de l'agriculture. Eux ils ont dit non, ça veut dire que c'est un message que tu veux nous faire passer, que tu vas régner sur nous, et pas que sur l'agriculture, tu vas régner sur nous. Tu crois que tu vas régner sur nous? Donc ses frères ont mal pris. Alors il a fait un deuxième rêve. Qu'est-ce qu'il a vu dans le deuxième rêve? Qu'est-ce que va rajouter le deuxième rêve?
Alors là, c'est plus ici bas, c'est là-haut. Hein.
Il dit, qu'est-ce qu'il va... Ah, très bien, mais regardez comment ça c'est encore plus fort. Comment là il va essayer de calmer ses frères. Il a dit, qu'est-ce qu'on voit dans le deuxième rêve? Dans le deuxième rêve, il voit, hein, encore une fois, Youssef, lui, dans sa tête, il se dit, je vais essayer de calmer mes frères avec un rêve en leur disant que le rêve va se passer exactement tel qu'on le voit. Bon, là c'est évident qu'il n'y a pas des étoiles qui vont se prosterner. Mais l'étoile ça représente quoi? C'est quoi? Ça représente quoi une étoile? Une étoile ça représente chez nous le mazal. D'accord? Il leur a dit, écoutez, je vois que vous êtes jaloux de moi et que vous pensez que je... Écoutez, ne soyez pas jaloux de moi. Ne croyez pas que dans la vie je vais réussir mieux que vous. Rien ne vous dit que dans la vie je vais réussir mieux que vous. C'est simplement une question de mazal. Moi j'ai un mazal qui est différent du vôtre. J'ai un mazal qui est différent du vôtre, ça veut dire que c'est dans le ciel. Et alors? D'accord? Donc il dit, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, même si votre mazal va se prosterner au mien, ça ne veut pas dire que vous, en bas, ici-bas, vous allez vous prosterner à moi. C'est une histoire de mazalote. C'est une histoire de mazal, c'est une histoire d'astre. Donc ne soyez pas jaloux de moi, c'est des choses qui se passent en haut. Ne prenez pas trop à cœur. D'accord? Attendez. C'est-à-dire, dans le premier rêve, qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Dans le premier rêve, il voulait leur dire, je serai plus fort que vous ici-bas, mais que uniquement sur le plan de l'agriculture. Il a vu que ça ne les calme pas. Alors il a fait un deuxième rêve, dans ce rêve-là, il leur dit, écoutez, c'est dans les as, c'est dans les mazalotes. C'est en haut que ça va se passer, c'est pas en bas. En bas, on va rien ressentir, vous inquiétez pas, vous allez vers une belle vie, je vais faire une belle vie, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il a 17 ans. En haut, dans les mazalotes, peut-être que moi, je vais vous écraser, ou vous allez m'écraser, on va savoir ce qui se passe. En d'autres termes, il a voulu leur dire,
c'est en haut, c'est
d'accord,
nous.
C'est en haut, vous prenez pas la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu encore une fois, que les frères, d'accord, que les frères, c'est pour ça qu'Yaakov n'a rien dit la première fois, parce que Yaakov a apprécié cette qualité de son fils, qui essaie de calmer ses frères. Yaakov a compris ça. Et là, la deuxième fois, lorsque Youssef a raconté, et là, Yaakov a vu clairement que les frères ne voulaient pas comprendre l'aspect, on va dire, de l'aspect conciliateur du rêve de Youssef. Au contraire, il cherchait ici la marloquette. Calmer son fils, yeah, stop, ça y est. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Ben, vive Shamar et Tadavar. D'accord, il a gardé ça pour lui, parce que sentez qu'il y avait quelque chose. De là, on a un message très important. C'est quoi le message qu'on a? Je vais m'arrêter avec ça. C'est que des fois, dans la vie, on est en position de force. On est en position de force par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, par rapport à quoi que ce soit. Et quand on est en position de force, donc on est forcément en position de force par rapport à quelqu'un d'autre. Par exemple, je suis avec quelqu'un, je suis en train d'étudier avec quelqu'un, je suis en train de parler avec quelqu'un, et je vois clairement que je suis une ligue au-dessus, quoi. Il n'y a pas photo. Alors, me dire c'est faux, c'est une erreur, c'est de la fausse humilité. D'accord? Me dire je fais comme si de rien n'était, c'est une erreur. Là, on a un message très important de Youssef. C'est que, même si des fois, on est mieux qu'une autre personne, et ça veut dire on a une qualité que l'autre n'a pas, c'est évident, c'est clair. Par exemple, du style, vous faites attention à un détail et l'autre n'a rien vu du tout. C'est clair que c'est une qualité que j'ai que l'autre n'a pas, par exemple. C'est évident, c'est clair. Ce qu'on te dit, c'est que,
Essaye de calmer l'autre. Comment? Essaye de calmer l'autre, mais attention, essaye de calmer l'autre en lui en essayant de lui montrer que c'est vrai que peut-être, pas en lui disant explicitement, sous forme d'image, que c'est vrai que j'ai une qualité, mais toi aussi tu as tes qualités. C'est exactement ce que Youssef a essayé de faire. Et essaye de le calmer dans ce sens-là. Mais attention, le message qu'on a ici de Youssef, et on apprend justement des ratés de Youssef, entre guillemets, c'est qu'il faut jamais le faire avec un ennemi. Jamais. Parce qu'avec un ennemi, forcément, dès que vous commencez à parler, à commencer à parler de vos qualités, même si vous, votre but, c'est d'essayer de vous réduire à ses yeux, il va forcément le comprendre dans le sens négatif, il va dire, oui, pour qui il se prend, et en plus il me rappelle ses qualités, il est en train de me remuer le couteau dans la plaie. Jamais devant un ennemi. Mais quand c'est pas un ennemi, c'est quelqu'un, comment c'est... Il faut au contraire essayer de lui montrer ses qualités. Pas en se réduisant, mais en se lui montrer, dire, tu sais, tu as certainement des qualités, etc., en essayant de se focaliser sur d'autres qualités. C'est ce que Youssef a essayé de faire. Sauf que dans le cas de Youssef, ça n'a pas marché parce que c'était des ennemis. Avec ça, je pense, une réponse qui nous permet de bien comprendre toute cette histoire de la paracha. Pourquoi Youssef a raconté les rêves? Pourquoi il a fait deux rêves? Pourquoi il a tenu à les raconter?
C'est l'analyse de qui que tu as
du rabbi.
Du rabbi, d'accord.
Ah, extraordinaire.
Non, pour moi, il y a un truc qui me dérange dans ça, et je trouve ça un peu naïf. Alors, je sais pas de la part de qui, si c'est Youssef, mais il aurait très bien pu dire ma jambe est plus grande que la vôtre, mon étoile brille plus forte que la vôtre, mais pourquoi dire se prosterner? C'est évident qu'il y a un message derrière. C'est évident que ça va être mal pris, surtout que c'est pas terminé.
C'est ce que je viens de dire ici. C'est que le fait de dire à ses frères, de leur dire non, vous inquiétez pas, je suis pas mieux que vous, c'est une erreur. Parce qu'il sait qu'ils sont jaloux, depuis qu'il est petit, ils sont jaloux, parce qu'il est une ligue au-dessus. Donc il peut pas leur mentir. Il peut pas dire je suis naze. Il peut pas dire, c'est faux. C'est... La seule solution, c'est qu'ils se sauvent, qu'ils partent. Il les dérange, parce qu'il est mieux qu'eux.
D'accord.
Une seconde. Alors il est mieux que. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu es mieux que quelqu'un? D'accord. Essaye au moins de réduire la chose sur laquelle tu es mieux que lui, de réduire à un domaine.
Mais pourquoi utiliser ce
c'est le mot se prosterner qui me dérange.
D'accord. C'est trop fort.
Il a raconté son rêve.
C'est alors, se prosterner. Le mot se prosterner, encore une fois.
Prosterner, ça s'applique surtout pas à une humaine.
Oui. Oui, j'ai compris. Mais justement, c'est ce qu'elle voulait leur dire. Dans le premier rêve, qu'est-ce qu'elle voulait leur dire? Elle voulait leur dire, effectivement, vous allez vous prosterner à moi, mais seulement sur le plan pécunier. Seulement sur la parnassa.
Imagine un petit peu que dans une famille, vous ayez un frère
qui dépasse les autres, de loin.
Le futur prix Nobel de physique.
Il les dépasse de loin.
Et l'autre frère,
il va pas leur dire à ses frères, vous êtes comme moi, c'est faux, c'est une erreur. C'est de la fausse humilité.
Tu vas un jour te prosterner devant moi.
Quoi?
C'est dur. S'il l'aime. Ah. Il va lui dire, quoi, la cavote, je suis content.
Alors, Yonel, il pose une question. Yonel, il dit, comment ça se fait?
Je suis fier d'avoir un prix Nobel dans ma famille.
J'irai le chanter partout.
Yonel, il pose une question, il dit peut-être que...
Les deux frères Cohen Tanichi. Ouais. Il y a un qui a eu le prix Nobel de physique. Et l'autre qui était professeur de physique à Orsay. C'est tous les deux des stars. Et le deuxième, celui qui est professeur, il habite pas très loin dans l'avenue d'Italie. Et alors j'aurais demandé, et votre père? Ils m'ont dit, notre père était dans les études, dans le tanard, dans la religion, etc. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous deux, vous êtes devenus communistes, etc. Il m'a dit, oui, c'est vrai, mon père ne s'est occupé que de son chemin à lui, il ne nous a pas transmis.
Et il a mis ça sur la tête de son père?
Non.
C'est facile.
Non mais attends. Ce sont deux gosses.
Tu parles du père qui est mort?
Brillantissime. Leur père a fait deux.
Tu parles de celui qui est mort?
Les deux Cohen Tanichi. Ouais. Ils sont tous les deux un prix Nobel de médecine et un prof de physique à Orsay. Je leur dis, mais d'où vous sortez? J'aurais dit, mais c'est qui votre père? Et ils m'ont dit, notre père était un grand sadique, mais il a fait son chemin. Et je dis, ça m'a surpris comment un type aussi extraordinaire peut avoir, il a rien transmis, deux gosses aussi extraordinaires.
Peut-être qu'ils en ont voulu prendre, attention.
Bon,
je vais répondre à la question de monsieur.
Le prix Nobel est encore vivant, tu parles de l'autre.
Allez, deux secondes, je vais répondre d'abord à la question de Lionel. Lionel a posé une question, c'est quoi la question qu'il a posé Lionel? Il a dit, pourquoi Youssef, il aurait pu faire plus simple, il aurait pu raconter ses défauts. D'accord? C'est une bonne question ce que tu poses. Sauf que Youssef ici, il y a l'aspect qu'on a expliqué, l'aspect prophétie du rêve.
La lettre, il faut la lettre.
Ça veut dire qu'il est obligé de raconter le rêve, il ne peut pas inventer.
Voilà, moi j'ai mes qualités. Et plutôt que de dire, bah, vous aussi, certainement, vous avez des qualités, il dit, en parallèle, j'ai aussi des défauts et vous êtes meilleur
que moi. J'ai compris. Ce qu'on comprend, a priori, c'est que ce rêve-là, alors, j'ai compris la question. Ce rêve-là, a priori, n'a pas été entendu que de Youssef. A priori, ses frères étaient à peu près au courant de ce rêve. Parce que c'est une prophétie, on l'a expliqué. Puisque c'est une prophétie, il n'était pas le seul à être au courant. Sauf que Youssef, quand il a raconté ce rêve, il se dit, puisque il y a une information qui vient de passer, c'est comme une information qui vient de passer et qu'apparemment tout le monde est au courant de cette information, j'ai ici une information que je peux utiliser pour essayer de calmer la haine de mes frères. Mais il est obligé d'utiliser cette information, il ne peut pas utiliser une autre. Donc, la première information qu'il a voulu utiliser, c'est le fait que je vais être plus fort que mes frères, mais seulement sur la parnassa. Ah, très bien, je vais les calmer avec ça. Après, deuxième message, c'est je vais être plus fort que mes frères, mais dans le mazal. Non, mais ça les a pas calmés, parce que quand on n'aime pas quelqu'un, tout de suite on prend ça, on va prendre ça tout de suite à l'extrême, la manière la plus négative.
C'est un beau mode d'emploi, mais est-ce que tu trompes, tu crois pas que la réaction des frères est quand même disproportionnée? Parce que
quelle réaction
De haine. La réaction de haine des frères, c'est quand même plus disproportionné. C'est plutôt une bénédiction d'avoir quelqu'un, on va dire, surdoué ou d'allure prophétique dans une famille. Et c'est pourquoi le considérer comme un ennemi. Je trouve que c'est
ça,
très...
La réponse, c'est à faute du père. Parce qu'il a tout de suite une préférence. Et
d'accord, mais tu peux très bien avoir une préférence pour...
Non, mais non, c'est une erreur. Attends.
Cette réponse est bien en contradiction
avec toute la réponse. Pour moi, à mon avis... non, c'est pas une contradiction, c'est complémentaire. Pour moi, à mon avis, Yaakov n'a pas fait une erreur en donnant une préférence à Yosef. Parce que Yosef, c'était la star de la famille. Là, comme je t'ai dit, quand t'as un gosse qui est surdoué, t'es obligé de t'occuper plus de lui.
Bah oui, tu peux t'occuper de lui, mais t'es pas obligé de faire de montrer. Tu peux t'occuper plus de lui, mais sans que ça se sache, sans que ça se voit.
Mais c'est un modèle.
Mais tu es sûr que c'est une famille. C'est impossible. C'est ça la réponse du rabbi. C'est impossible.
Tu mets le modèle en avant, c'est normal.
C'est impossible de le cacher.
C'est impossible de mettre
disproportionné
encore une fois. Des petits enfants mettent des grands, faut plus.
Excusez-moi, c'est qui cette... Attends. C'est quoi cette tunique? D'où elle vient cette tunique?
Adam Arishon.
Adam Arishon, il n'y avait pas 10 000 tuniques, il y en a une seule. D'accord. Mais parce qu'il sait que la star de la famille, celui qui va représenter la famille.
Et alors?
Attends, à qui tu donnes le volant de la F1?
Ben oui.
Non,
il a raison.
Non, là, il des frères, c'est un père avec des frères. Il a accusé la de ses frères,
non.
De ses fils.
Moi, je ne suis pas d'accord.
Alors, encore une fois.
Je pense que c'est les frères qui ont eu
la réaction. Non, mais c'est sûr. On va pas sur la finalité, on le voit dans le chat, la finalité, c'est ça.
Vous avez deux enfants, vous avez un enfant.
On est d'accord ou pas, mais la finalité, elle est là, comme
elle dit. Il y a un enfant, il y a un bonbon.
Oui, elle est là, la finalité.
Tu as raison, la finalité est là. Parce que ça... Non, peut-être qu'il y a eu un manque de tact de la part de Yaakov. Ce que je vais expliquer ici, c'est comme ça. Ouais. C'est que Yosef était supérieur à ses frères. Et ça, c'est clair.
Ça, c'est clair. Ça, on a bon. Tout le monde est...
Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. Ils n'avaient pas la même classe.
C'est pour lui qu'il est parti là-bas.
Il avait une seule tunique.
Dès qu'il est né,
il était plus intelligent que ses frères, tout ce que tu veux. Cette tunique était une source de pouvoir. C'est une tunique qui venait d'Adam Arishon. D'accord? Donc on ne peut pas la donner à 10 000 personnes, il ne peut la donner qu'à une seule personne. Yaakov, certainement que Yaakov, lorsqu'il a favorisé son frère, son fils Yosef, il savait très bien ce qui allait se passer avec les autres frères, mais il n'a pas le choix. Parce que quand on a quelqu'un de surdoué, il faut s'occuper de lui, il faut lui prendre plus de temps pour lui. Il savait très bien ce qui allait se passer, mais il n'avait pas le choix parce que c'était pour le futur du monde, pour le futur du Ham Israël. C'est Yosef. Mais oui, Yaakov, deux secondes. Alors Yosef, ce qu'il essaye de faire après, Yosef essaye de calmer ses frères en leur disant écoutez, je suis mieux que vous, mais pas surtout. Vous avez vos qualités.
En racontant ce rêve, c'est difficile de que... J'ai expliqué pourquoi, j'ai bien compris ton
reproche. T'as deux enfants.
Moi, j'en ai rien de plus doué que l'autre. Non, moi, je trouve que c'est les frères qui me déçoivent.
Et c'est le plus doué, mais je passe ton temps toujours avec lui et jamais avec moi. Moi, je pense que c'est plus nature à aller compenser et aider celui qui est le moins doué.
Mais là, c'est pas aidé, c'est des gens qui sont mariés et qui travaillent déjà. Mais la question, c'est à qui va enseigner toute la Torah? Non, et tu le fais au quart de tour, il comprend tout, toi l'autre, il prend des années pour comprendre.
Là, il travaille, c'est ça. Mais avant, ils étaient petits.
Mais quand ils étaient petits, Yosef n'était pas né encore.
Ouais, mais bon, ils étaient petits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et cette tunique, avant que Yosef y naisse, cette tunique, pourquoi il l'a pas donné à notre frère? Yosef n'était pas encore né.
En fait, je vais t'expliquer.
C'est un héritier!
Voilà!
C'est
que je comprends les choses, c'est que...
On
est à Com, est en train de passer le flambeau.
À chacun, un an, tu la gardes, à chaque fois,
au plus grand, tout le monde aurait compris.
C'est l'héritier!
Mais Reuven, c'est pas celui qui en a besoin le plus.
La garder pour lui.
Reuven, c'est pas celui qui en a besoin. Non, on peut pas la garder pour lui, parce que là, Yaakov est en train de passer le flambeau. Ça y est, il est en train de préparer son départ. Il sait qu'il va bientôt partir. Il prépare son départ. Il sait pas ce qui va se passer. Tu dis, il avait qu'à la donner à Reuven. Non! Parce que Reuven, c'est pas celui qui l'aurait le mieux utilisé. Celui qui l'utilise au meilleur escient, c'est Yosef, donc il faut la donner à Yosef.
Quand il est parti, la tunique, elle était où?
Quoi?
Quand il est parti en Égypte, qu'est-ce qu'elle était devenue, cette tunique?
Elle a été ramenée. Elle a été rampée dans le champ, elle a été ramenée à l'intérieur.
Mais le problème, c'est
pas la tunique. Ramenée, ouais.
On sait qu'ils avaient tous une tunique.
Elle existe toujours,
c'est une tunique un peu de meilleure qualité, mais ils avaient une tunique.
C'est pour ça que le problème,
c'est pas la tunique.
C'est la tunique, parce que
le problème, c'est
pas cette tunique, c'est la tunique d'Adam Arishon.
Pourquoi c'est un grand chasseur?
Il n'y a pas 10 000, il y en a une seule. Pourquoi il y en a?
C'est par les animaux,
mais sûr,
j'étais jaloux du rapport qu'avait Yaakov avec son père,
aussi.
Avec Yosef.
C'est une rigolade.
Il voit un frère qui a beaucoup de rapports avec son père et eux ils n'ont pas les mêmes rapports. C'est surtout ça qui les gêne. La tunique, à la limite, donc c'est une tunique.
Non, j'ai compris. Ce que vous voulez dire, le message que j'entends un peu de tous, c'est que on s'est focalisé sur Youssef, sur l'erreur de Youssef, on s'est pas focalisé sur l'erreur de Yaakov.
Ah oui, non, on va devoir le faire. Moi, je pense que c'est surtout les frères qui sont... Une disproportion.
Il a essayé de les calmer.
Il a essayé comme ça. Mais quand même, ils ont eu une réaction.
Bon. Tu l'as arrêté
non, mais... non.